Bien, heureux de vous rencontrer, même si toujours un peu stressé avant un tel événement. C'est quelque chose qui m'étonne. Ces 2 années dernières, c'est incroyable le nombre de fois où on m'a demandé une intervention sur ce thème-là. En Suisse, je suis français, je viens de Besançon, mais alors on a un train de retard, parce que chez nous, c'est quelque chose qui n'est pas encore tellement pointé et mis en exergue. En Suisse romande, c'est peut-être la 30e fois que je fais une telle conférence devant un collège d'enseignants. Chaque fois, je suis content, chaque fois, je suis un peu aussi trouillard. C'est jamais évident pour moi de m'adresser à un public d'enseignants parce que, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Pennac, Chagrin d'école. Mais c'est un bouquin qui est très parlant à plein d'égards. Si vous n'avez pas lu, lisez-le, parce qu'il y a aussi question d'humiliation. Il y a bien des endroits où je retrouve un peu de mon histoire scolaire. Je suis psychosociologue, psychothérapeute. Je vais vous parler donc à ce titre-là, mais aussi à titre de père. J'ai 4 enfants. Les plus grands sont grands. 24, 23, 21, un petit dernier 15 ans, et j'ai suivi leur parcours. Et je suis encore assez proche de mon dernier, qui est au lycée à Besançon, en France. Et j'ai moult exemples en milieu scolaire d'endroits où j'observe des schémas d'humiliation. Donc je les connais en tant que professionnel, en tant que père et aussi en tant qu'élève que j'ai été. C'est difficile pour moi d'écarter de ma mémoire des expériences en milieu scolaire où je me suis trouvé à être humilié. Pas forcément d'énormes humiliations, mais des petites séries de transactions humiliantes qu'on n'oublie pas. La mémoire de l'humiliation, qu'on appelle la mémoire de la honte, est une mémoire qui est longue. Par exemple, quand je fais des conférences sur le thème de la honte, c'est inimaginable le nombre de questions qui me sont posées à propos de la honte, de témoignages qui me sont rapportés qui concernent le champ scolaire. Vous avez des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, qui viennent me voir et qui me racontent ce qu'ils ont vécu à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et au moment où elle le raconte, il ne le raconte pas comme un fait divers, elle le raconte et ils y sont. Leurs larmes qui coulent des paupières, leur gorge qui est enrouée, les mots qui ne sortent pas traduisent immédiatement l'accès direct avec l'expérience. Ils sont en plein dedans. Cette mémoire-là ne s'efface pas. C'est vrai pour nous en Europe, c'est vrai aussi à l'étranger. Je pense à ce vieil Africain. Il m'avait dit un jour. Il était vraiment un vieil homme, il avait, je crois, près de 90 ans, et m'avait dit, moi, j'oublierai jamais que l'école est pour moi très synonyme du symbole. Et je lui dis, qu'est-ce que vous appelez le symbole? Et il m'a dit, le symbole, quand j'étais au Cameroun, on était alors colonisés, et nous allions à l'école, école faite par des frères blancs, des pères blancs. Et nous devions parler le français. Donc nous devions oublier, nous abstraire de notre dialecte africain, par exemple le Wolof, par exemple le Peul, pour au contraire rentrer en langue française. Et si par mégarde il advenait que notre langue fourche et que nous empruntions un mot au dialecte africain, alors on avait droit au symbole. Je dis, ok, mais c'est quoi le symbole? C'est pas compliqué, nous dit-il, c'est une boîte de conserve évidé, qui était attaché autour de notre cou par une ficelle. Et dans cette boîte évidée, on y avait placé une merde. C'était ça, dit-il, le symbole. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Eh bien, ce genre d'expérience, là j'en prends une un peu spectaculaire, mais sans prendre des éléments aussi spectaculaires, les personnes, les êtres humains que nous sommes, n'oublions pas ces expériences-là. Elles ont un impact extraordinaire sur nous, à tel point que la question que je me pose souvent est la suivante, est-ce qu'on peut définir l'humiliation parfois comme étant le facteur numéro un d'échec scolaire. Et pour plusieurs raisons, j'aurais tendance à dire, je ne suis pas sûr que ce soit numéro un, mais en tous les cas, dans le tiercé de tête, assurément. Et je voudrais donc vous parler de ça. Pourquoi, en quoi et comment on peut regarder aussi l'humiliation comme étant un facteur d'échec scolaire. J'ai rédigé durant l'été un court article pour une revue pédagogique qui s'appelle Radix. Vous connaissez ? C'est dans vos réseaux, je crois. Sur ce thème-là. Et alors, je suis parti d'une expérience. Alors, je vais parler d'expérience, je vais adopter un point de vue. Mais surtout, ne me cantonnez pas de ce point de vue. Je vais parler d'expérience où j'ai observé des transactions d'humiliation de la part d'enseignants auprès d'élèves. Mais l'inverse est absolument vrai. Il y a des élèves et des groupes classes qui sont extrêmement humiliants. Il y a des enseignants entre eux qui sont humiliants. Il y a des élèves qui entre eux sont humiliants. Il y a des groupes classes qui ont un tel pouvoir d'humiliation que ce qu'on appelle les têtes d'ampoule ne peuvent pas réussir. Les têtes d'ampoule, c'est le nom, par exemple, donné à ceux qui réussissent bien. Bien évidemment, si vous ne voulez pas être une tête d'ampoule, limitez votre réussite et soyez à peu près dans la moyenne, tout se passera bien. Donc ces processus d'humiliation sont vraiment multiples, divers, variés et chopent tous les niveaux. Aujourd'hui, je vais surtout pointer et mettre l'accent sur l'humiliation mise en place par les enseignants auprès des élèves. Mais elle n'est pas unique. Donc ne me dites pas, ah, il est en train de nous descendre celui-ci. Non, non, vraiment, ce n'est pas mon intention. Je vais quand même prendre des exemples où les enseignants sont concernés. Par exemple, cette expérience-ci, dans le collège où allait mon dernier enfant, il est un enseignant qui est réputé comme étant un enseignant qui terrorise les élèves. Il a un handicap et il profite de son handicap pour exercer une forme de tyrannie auprès des élèves. Une fois par an, il y a ce qu'on appelle un temps de rencontre parent-prof. Le mirant, et me voici devant lui, normalement pour 5 minutes. Je suis avec ma femme. Ma femme est médecin, mais elle ne fait pas de toubibrie, elle fait aussi de la psychothérapie, la pauvre. Et donc nous sommes les deux en face de cette personne. Et il nous dit, écoutez, je ne sais pas très bien moi par quoi je vais commencer. Moi je ne sais pas trop quoi vous dire, est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Et à ce moment-là, je me dis, ben, si je lui disais, et je lui dis, ben voilà, notre fils a peur de vous. Et il a peur de se rendre en classe auprès de vous. Quand il y vient, généralement, la nuit précédente, il dort peu ou mal. Il a le ventre noué. Le matin, il se réveille, il est parfois tremblant. Il est pâle comme ma chemise. Et il a de la peine à respirer. Ce sont tous des symptômes de stress. Le type me dit, mais ah bon? Et comment, en quoi je lui fais peur? Je lui dis, je crois que vous lui faites peur, parce que parfois vous pouvez peut-être avoir des réactions qui sont un peu vives. En tous les cas, peut-être le plus simple, c'est que vous regardiez ça avec lui, mais puisque vous nous invitez à vous dire ce qui se passe, je vous dis ça. L'entretien qui devait durer 3 minutes a duré un quart d'heure. Il ne pouvait pas nous laisser partir. Et on a regardé ensemble une façon presque de passer un contrat, lui et moi, sur le fait que puisqu'il était aussi intéressé par le sport, peut-être il pouvait commencer à coacher notre fils. Ah, il a dit, c'est une bonne idée. Et au bout d'un quart d'heure, nous avons quand même réussi à nous dégager. Et une fois dans le couloir, on s'est regardé, ma femme et moi, avec un sourire jusqu'aux oreilles. L'impression est, waouh, on a dit un truc qui était important et je crois qu'il nous a entendus. Il ne pouvait pas nous lâcher. On était tout connement heureux. Vraiment. Comme un « Waouh !» Il y a un truc qui a marché. On a vite déchanté. Dès les cours suivants, il a commencé à piquer notre fils devant les élèves rassemblés. Alors, pas que t'as peur? Pas que je te fais peur? Là, si je te fais une remarque comme ça va? Ton père va encore venir pleurnicher? Ce genre de propos. Et les mois sont écoulés avec ce genre de propos. Qui, bien évidemment, conduisait mon fils à commencer à se mettre un peu en retrait, à l'écart. Mais le retrait est très aussi fustigé. Alors, tu parles pas? Tu as aussi peur du silence? Tu as peur de parler? Et clac, clac, clac. À tel point que nous avons été conduits, ma femme et moi, à trouver des excuses pour que notre fils n'aille pas à ses cours. Mais hors sa présence, les coups redoublaient quand même. Alors, il n'est pas là, votre copain, Élie? Il a de plus en plus peur, de plus en plus mal à venir, jusqu'à la fin, où sur le bulletin trimestriel, le propos était, Élie, il a surtout peur du travail. Sachant que notre fils est passé allègrement au lycée avec une moyenne de 13, ce qui était pas remarquable, suffisant. Voilà un exemple typique d'un comportement humiliant. C'est typique. Celui-ci est direct. Alors, c'est rare d'en avoir un aussi évident que ça. Okay. Merci, monsieur. Celui-ci est vraiment direct. Il est visible, il est lisible. Et je vais vous montrer le processus, parce que l'exemple me le permet. Avant cela, juste un autre exemple pour vous montrer parfois une des difficultés. Ça se passe également dans une classe de mathématiques. Le professeur vient, va au tableau, commence à marquer quelque chose et reçoit une boulette de papier dans le dos. Ça, c'est absolument incorrect. Il se retourne, je vous prends comme exemple. Et il dit, Karel, je sais que c'est toi. Et Karel dit, mais non, monsieur, c'est pas moi. Karel, arrête. Je t'ai vu, je sais que c'est toi. Donc, tu es une retenue. Mais monsieur, c'est pas moi. Arrête, c'est toi. Et le gamin se défend parce qu'il est, à ses yeux, injustement accusé. Une minute se passe, un autre élève dit, non, c'est moi. L'autre élève a la particularité d'être le neveu de l'enseignant. Ah, c'est la famille. Alors l'enseignant lui dit, bah, écoute, tu ne recommenceras plus. Karel, tu es collé. Monsieur, c'est pas moi. Oui, mais t'avais pas à me répondre comme ça. Ça, c'est typique d'une de nos plus grandes difficultés à titre d'enseignant. Et vraiment, je me mets là-dedans, c'est à accepter d'être confronté et à accepter de reconnaître, de valider nos erreurs devant des élèves. On croit qu'on perdrait la face à le valider. Mais on perd la face, l'autorité et le respect à l'invalider. Et pour un enfant, franchement, mais honnêtement, que vous fassiez une erreur, c'est acceptable, c'est recevable, c'est humain, bienvenue chez les humains, vraiment. Mais que vous vous défendiez d'avoir commis cette erreur et que vous usiez de mauvaise foi pour ce faire, c'est insupportable. Profondément insupportable et pour le coup profondément humiliant. Si on revient dans ces deux exemples, si on revient au processus, on va observer la chose suivante, et c'est typique d'un processus d'humiliation. Ça traverse quatre ou cinq étapes très précises. La première étape, ce qu'on appelle une transaction d'humiliation. On peut appeler ça aussi une pique, une vexation, une moquerie. Je vais prendre l'exemple avec Élie qui a 15 ans, mais avec un petit bonhomme de 3 ans, je sais que parmi vous, il y a des enseignants, c'est rare que j'y rencontre ceux-ci, qui ont affaire à des petits bouts ou des petites bouttes. Hein. C'est pareil. C'est pareil. On verra après, je vous montrerai pourquoi ce que je raconte commence tout petit, dès 2 ans. Okay? Dès 2 ans, on peut voir apparaître ces phénomènes-là. Le moment où les réactions physiques à la honte vont devenir visibles. Parce que les réactions à la honte sont visibles. Je rougis, je bégaye, je transpire, je tremble. Tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui me dépassent, que je ne peux pas maîtriser, sur lesquels j'ai aucun contrôle. C'est l'horreur d'être devant quelqu'un ou devant une classe et de se sentir rougir et de ne rien pouvoir faire. C'est comme si vous pouviez lire directement sur moi, regardez la honte que j'ai. Mais c'est inimaginable la détresse que ça suppose à l'intérieur, le sentiment de révolte que ça fait naître, et surtout au-delà de tout, le caractère d'impuissance qui est là-dessous. On se sent impuissant. Première étape, disais-je, une transaction d'humiliation. Par exemple, quand cet enseignant dit « Écoute, ton père va encore venir pleurnicher. » Okay. Ça, c'est une transaction d'humiliation. Directe, claire. Et de plus, qui touche aux parents. Le parent est censé être une personne respectée et respectable par et pour l'enfant. Je ne touche même pas toi, bonhomme, je touche ton père. C'est chaud. À ce moment-là, si mon fils se met à réagir, okay, ce qui parfois, entre parenthèses, peut être attendu, okay, s'il réagit, tout d'un coup, il va être vu comme quelqu'un qui se met en colère, qui est agressif, violent. Je vais te punir, tu n'avais pas à me parler comme ça. Bah tiens. Le sentiment d'injustice que je ressens, je le manifeste, je le montre parce que je suis en colère, et on traduit, on définit ma colère comme étant de la violence, comportement agressif. Mais en rien de temps, avec de tels phénomènes, vous définissez un élève, deux, trois élèves dans un collège, dans une école, comme étant des gamins à problème, des gamins agressifs. Et vous les positionnez alors comme étant des gamins définis ainsi, qui vont se construire comme ça et qui vont réagir comme ça. Après, ils réagissent comme ça. Ils réagissent en fonction de l'attente que nous avons par rapport à eux. Ça marche du tonnerre de Brest. Très bien. Donc, dans ce moment-là, après la transaction d'humiliation, mon gamin ne réagit pas. Il ne répond pas à ce qu'il vit à ce moment-là comme une transaction de provocation. Il ne répond pas. Mais n'y répondant pas, il est dans une forme de retrait, deuxième étape, retrait dans lequel il vit trois phénomènes caractéristiques, la colère qui bouillonne, sentiment de révolte, la tristesse de se voir incompris, non pris en compte, invalidé, et la peur d'être écarté et rejeté. Et ça va drôlement bouillonner à l'intérieur de lui. Parfois, ça peut durer 5 minutes, parfois, plus souvent, l'espace d'une heure, le temps d'un cours, parfois plusieurs journées. C'est ce qui va se passer. Durant ce temps-là, un élève, c'était le cas pour lui, mais c'est le cas pour tous les élèves, ont un espoir. L'espoir, c'est que, quand même, l'enseignant va dire, écoute, excuse-moi, tout à l'heure, j'étais un peu fort. Parfois, on le fait en tant que parent. On le fait, on fait ça. On est à table, on est en train de prendre un repas, et puis tout d'un coup, alors, c'était très typique chez moi, parce que je suis assez moqueur, entre guillemets, ce qui est genre, vraiment, je n'ai pas inventé de ça, mais c'est vrai, ça fait partie de mes conneries. Et puis, à table, puis en plus, avec 4 enfants, j'avais moyen de m'amuser. Et donc, comme ça, des fois, il y avait une pique qui partait, ok? Et je me rendais compte que ce qui se passait souvent, ce que les enfants font, ils ne se défendent pas, parce que s'ils se défendent, ça ne marche pas. Ils sont vus que vraiment, tu n'as pas d'humour, on ne peut pas rigoler avec toi. Okay? S'ils pleurent, ça augmente le sentiment d'humiliation, donc ils ne peuvent quand même pas pleurer, ils partent. Ils partent dans leur chambre. Okay? Je ne pense pas qu'ici, vous ayez jamais connu une expérience comme celle-ci, ou pour vous-même, ou que vous l'ayez vu de vos yeux vus, okay, je pars dans ma chambre, c'est ça qui se passe. Mais un gamin à l'école, il n'y a pas de chambre, donc il part dans sa tête, okay. Ce qu'on appelle le retrait. Il part, mais une quelconque, il rumine. Okay. Là, il vaut mieux que vous ne sachiez pas tout ce qui se dit. Mais le volume est fort avec ou sans micro, c'est très fort comme volume. Il se passe ça. Mais le gamin dans la chambre, tout comme le gamin sur le banc d'école, a l'espoir. L'espoir que, quand même, quelqu'un vienne, quoi. Et en tant que père, si j'étais des fois assez couillon pour me moquer de mes gamins au point de les mettre mal et qu'ils quittent la table, j'étais pas trop couillon pour 5 minutes après, 10 minutes après, aller chercher et dire, écoute, excuse-moi, maman, j'étais bête, allez, reviens. Non ! Mais c'est bien ! Parce qu'il ne faut pas qu'ils reviennent tout de suite, vous comprenez ? Il faut qu'ils me fassent un petit peu attendre et mariner cette bonne guerre. À ce moment-là, je reviens, je fais la mine un peu penaud, et puis l'enfant vient après, vous comprenez ? Mais il vient, il concède de venir. Ok, cette bonne guerre. Mais ça se passe comme ça parce que je suis allé le chercher et qu'il a eu le loisir de m'envoyer péter. Ça, c'est le rôle d'un parent. Quand un enseignant qui a été humiliant reprend ça et puis reconnaît sa faute ou son erreur, il gagne des points. Il gagne des points non seulement auprès de l'élève concerné, mais si vous voulez vous mettre une classe dans la poche, ça, c'est tip-top. Vous obtenez le respect. Simplement le respect. Quand je dis ça, ça n'est pas vous déjuger, attention, hein. C'est pas vous excuser à tout bout de champ. C'est valider l'endroit où vous avez été faillible. Point. Parce que quand parfois vous vous fâchez à juste titre, et que parfois, après, vous vous déjugez, là, vous vous humiliez. C'est très différent. Je vous parle de situations où vous avez été incorrect. Et n'escomptez pas, vous comme moi, pouvoir nous épargner de ça. En tant que psychothérapeute, en tant que consultant et en tant que formateur, il y a bien des fois où je suis directement ou indirectement humiliant. Mon propos, c'est pas de ne plus jamais l'être, mais c'est quand je le suis, quand je le vois, quand on me le montre, d'accepter ça et de corriger mon tir. C'est ça que je vise. Je ne vise pas ne plus l'être. Ça, ce serait mettre la barre trop. Donc, l'attente du gamin, c'est que quelqu'un vienne. Ou même des fois, qu'un copain me fasse un signe, okay, que la classe bouge. Monsieur, c'est pas juste quand même. Mais 99 fois sur 100, cette attente est vaine, ça n'arrive pas. Ça ne survient pas, ça ne joue pas comme ça, pas vrai. Alors, devant cette attente vaine, le gamin, deuxième étape, va devoir faire quelque chose, d'abord en interne. Ce qu'il va devoir faire, c'est diminuer son sentiment de colère. Le minorer, qu'on appelle le disqualifier ou le dévaloriser. C'est-à-dire, je minimise l'importance de mon sentiment de colère. Alors, après tout, bon, je m'en fous. Alors, ça, c'est typique, ça. Je m'en fous. Même pas mal. Okay. Voilà. Mais voilà. Mais il n'y a pas le choix. Donc, pour pouvoir dire même pas mal, il faut que je minimise la colère qui est en moi. Minimisant, adoucissant la colère qui est en moi, colère légitime par ailleurs, hein, c'est normal et riche, naturel. Je minimise en même temps mon sentiment de tristesse d'être ainsi incompris. Étant ainsi parvenu à diminuer mon expérience interne, j'entre dans une troisième étape. Troisième étape, c'est le retour auprès du groupe classe. Par exemple, c'est ce qu'a fait mon fils Élie quand, après avoir ravalé sa colère, il tente de revenir. Okay, et au bout de 30 minutes, à une question posée par l'enseignant, il lève le doigt. On voit quand il fait ça, je m'en fous, je prends l'exemple de mon fils, c'est pas un saint, loin de là, mais je prends juste comme exemple. Il lève le doigt, c'est sa façon à lui de dire « Ok, drapeau blanc, je reviens ». Le prof le regarde et ostensiblement, les cartes et passe la parole à l'autre. On voit, c'est la troisième étape, combien l'enfant va tenter de revenir dans le groupe, okay, mais il y vient. Quelque chose qui cloche là, non? Mais il y revient, et ça c'est un point important, en position basse. Il y revient en position soumise. Il n'y revient pas avec une forme de dignité. Il n'y revient pas avec une forme de tranquillité, d'assurance. Il y revient parfois comme un chien retrouve sa meute, la courbe, l'échine courbée, la tête rase. Il y vient en position de soumission. Mais il n'a pas le choix. Il faut bien retrouver le cursus scolaire, le groupe classe et l'enseignement qui est dispensé. Troisième étape. Quatrième étape, au moment même où il revient dans cette position qui est une position de soumission, pas une position de respect de lui-même, il va le plus souvent entendre un propos qui va le définir et il va rentrer dans la définition qui est donnée sur lui. Par exemple, « Ah, tu fais plus la gueule ?» Sous-entendu, tu es vraiment un gamin qui fait la gueule. « Ah, le petit prétentieux qui revient. » « Ah, monsieur compliqué est à nouveau là. » Et tout ce genre de propos. Là, pour mon fils, c'était celui qui a toujours peur puis qui a un papa qui est pleurnichard. Le peureux. Ce genre de propos, quand il est tenu et donné à un enfant dans une position soumise, rentre chez l'enfant comme dans du beurre. L'enfant le prend comme étant la définition de lui-même. Je suis comme ça. Toi, de toute façon, tu es bien le fils de ton père. Tu es bien un tournier, toi. Tu es bien un petit paysan. Tu es bien un mec de la campagne. C'est bien tout et n'importe quoi, t'es bien mec des quartiers. Et tout d'un coup, vous voilà défini par quelqu'un. Et vous voilà enfermé dans une définition donnée par quelqu'un. Le souci, c'est qu'une fois que cette définition est donnée sur vous, alors que vous êtes en position basse et soumise, cette définition, vous la croyez vraie, vous la pensez vraie, et dans votre vie qui va suivre, il y a beaucoup de moments et d'événements vous viendrez vous-même confirmer ça. C'est vrai. Je suis vraiment, vraiment comme ça. Je suis quelqu'un de médiocre. Je suis bête. Combien d'élèves ont entendu « Qu'est-ce que tu es bête, toi ?» Ou d'enseignants, ou de leurs parents. « Qu'est-ce que tu es con ?» Tu n'es pas méchant, mais tu es con. Et on grandit à cette image-là. Je parlais hier avec une de mes meilleures amies. Vraiment, je jure que c'est vrai, une de mes meilleures amies. C'est une toubib. Elle a fait la faculté, l'université de médecine. Et je lui disais, mais un de mes enfants est aussi en médecine. Et je lui disais, mais au fait, comment ça se passait pour toi dans tes études? Elle me disait, oh, ça se passait bien. Et je lui dis, qu'est-ce que tu appelles bien? Elle me dit, oh ben, j'ai eu le concours assez facilement. Elle avait un an d'avance. C'est quoi assez facilement sur 1000 élèves hein, à Besançon? Combien, ça veut dire quoi assez facilement? Oh, je suis terminé dans les 20 premières. Je dis oui, et après, dans les années qui ont suivi, de la première année à la 8e année, ça s'est passé comment? Elle m'a dit, oh, ça s'est passé bien. Ça veut dire quoi bien? J'étais souvent dans les 3 premières, et souvent la première. Et j'ai été assez stupide pour faire une remarque suivante, qui était de lui dire, mais en même temps, c'est drôle parce que je ne trouve pas que tu as une activité médicale qui soit en relation avec ta brillance d'études. Quel con. Vraiment quel con. Eh bien, il y a eu un silence long, un blanc. Elle a raccroché au téléphone. J'ai rappelé après, j'ai mis des plombes avant de récupérer mon erreur. Jusqu'au moment où, en larmes, elle m'a dit ce matin, mais tu ne peux pas savoir, quand tu m'as dit ça, tu m'as renvoyé à ma médiocrité. Je suis quelqu'un de médiocre. Putain, je me dis, c'est pas vrai. Attends, cocotte, t'es première. pendant 8 ans d'études de médecine et tu te vois comme médiocre? Eh bien oui. J'ai peut-être 8 années où j'ai chaque fois terminé première, major de ma promotion, et pourtant, je me vois comme médiocre. C'est exactement ça, la résultante de l'humiliation. La résultante de l'humiliation, c'est un processus par lequel un être humain diminue, disqualifie, dévalorise un autre être humain. C'est ça, l'humiliation. La résultante, la conséquence de l'humiliation s'appelle la honte. Le sentiment de honte. La honte, c'est une expérience profonde, intime et interne, de se sentir moins que quelqu'un. Moins intéressant, moins bien, moins intelligent, moins à sa place, moins digne. Moins digne. Elle, son indignité, c'était une forme de médiocrité. Une de mes patientes avait 65 ans quand je l'ai vue. Elle était l'épouse d'une sommité politique française. De sa vie durant, elle avait conduit, animé, créé, mis en œuvre et en place des événements réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Elle avait signé des contrats à hauteur financière extraordinaire. Et quand je l'ai vue, pendant un an, je la voyais de façon hebdomadaire. Son début de séance était toujours sur le même modèle. Elle arrivait en pleurs parce qu'elle était à ce moment-là, son mari était à la retraite et elle ne pouvait plus bénéficier de l'aura de son mari. Donc elle était comme en panne. Et la première phrase était « Jean-Luc, dites-moi que je ne suis pas idiote. » Eh bien, elle était marquée ici par le sceau de la honte. « T'es une idiote, quoi que tu fasses, quoi que tu dissimules, quelque vie que tu puisses avoir par ailleurs, tu es une idiote, comme ta mère. » Et là, elle entendait l'humiliation mise en œuvre par le père auprès de la mère. Parce que de plus, entre guillemets, l'humiliation est aussi en champ scolaire, traverse les générations. Vous savez, c'est un petit peu comme cette expérience qui est tout à fait étrange, mais c'est le même processus. Vous prenez 4 rats, vous les mettez dans une cage, ces 4 rats, et vous mettez au bout d'une cage, au bout de la cage, un morceau de fromage. Au premier rat qui va bouffer le fromage, vous l'envoyez un seau d'eau glacée sur le corps. Il recule. Deuxième rat, il va au fromage. Même traitement. Troisième, quatrième. Les 4 rats se sont chopés un seau d'eau glacée. Maintenant, vous retirez 2 rats. Et vous mettez à la place 2 rats secs. Et le fromage au bout, premier rat sec, va bouffer le fromage. Au moment où il va vers le fromage, les 2 rats mouillés lui sautent dessus pour l'empêcher d'aller bouffer le fromage. Idem pour le deuxième rat sec. Après, vous retirez les 2 rats mouillés qui restent, vous mettez à nouveau 2 rats secs. Vous avez donc 4 rats secs. Okay. Les 2 premiers rats secs empêcheront les 2 nouveaux rats secs. Vous me suivez, hein? T'as 2 riz, t'as 2 rats, d'aller bouffer le fromage. Eh bien, au bout du compte, aucun des 4 rats secs qui pourtant n'a jamais reçu la moindre décharge aquatique, aucun d'entre eux ne bénéficiera des bienfaits du fromage. La transmission de l'humiliation s'appuie sur la même chose, le même phénomène. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Entre autres, je pars dans quelques semaines, 2 semaines, en Albanie, faire une série de conférences sur l'humiliation avec des enfants handicapés. L'enfant handicapé sous le levier de l'humiliation. Et en Albanie, c'est plutôt terrible. Les enfants handicapés sont chassés à coups de pierre, par exemple, par les autres enfants du village. C'est profondément humiliant. Mais je vais aussi à La Réunion. Par exemple, à La Réunion, il y a des établissements scolaires là-bas où on ne peut pas faire venir les parents. Parce que les parents ont une telle expérience traumatique du milieu scolaire qui ne peuvent pas mettre les pieds dans l'établissement scolaire. Et on se rend compte que parfois, leurs propres enfants, avant même qu'ils aient franchi pour la première fois l'école ou le collège, les grilles du collège, sont déjà dans un processus d'enfants humiliés, comme si on leur avait transmis cette humiliation-là. Donc, parfois, sans même qu'il y ait aucune transaction en direct auprès des enfants, les enfants sont déjà sous le coup de l'humiliation. Alors, avant que je vous montre les conséquences, on peut se rendre compte que parfois, on peut réagir face à ça. C'est vrai. Par exemple, combien d'enfants humiliés se sont dit, puisque c'est comme ça, je vais lui prouver à cet abruti que je ne suis pas un con. Et combien d'enfants en France, mais c'est pareil chez vous en Suisse, nous le baccalauréat, vous la maturité, ont parvenu à la maturité au baccalauréat, sont allés retrouver leur enseignant des classes primaires avec le diplôme sous le nez, regarde, alors. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont construit leur processus scolaire dans le processus de prouver à quelqu'un qui les a humiliés qu'il avait tort de les humilier. Et c'est vraiment un ressort intéressant, mais qui a ses limites. La première limite, c'est d'accord, mais une fois que tu as obtenu ton baccalauréat ou ta maturité, tu fais quoi après? Tu as su te bagarrer contre. Tu as su mettre beaucoup d'énergie pour prouver que tu n'es pas un con. Très bien. Une fois que tu l'as prouvé, tu fais quoi? Tu as envie de quoi? Je ne sais pas. Tu veux étudier quoi? Je ne sais pas. Tu veux faire quel job? Je ne sais pas. Ben oui. Tu sais te battre contre, mais te battre pour toi, tu ne sais plus. Combien aussi d'entre ces enfants-là, parfois, rejoignent également les bancs des enseignants, des pédagogues? Parce que je sais, pour avoir été un enfant humilié, combien alors un enseignant peut être humiliant, et je vais devenir à mon tour enseignant dans le but de corriger ce qui parfois a été mon propre vécu. Je me souviens, par exemple, avoir fait des conférences sur ce thème-là auprès d'enseignants, et avoir vu un enseignant ou deux ou trois se lever en larmes et en pleurs, partir en hurlant de la salle, en disant « c'est trop, ce que j'entends, c'est trop, c'est exactement ce que j'ai vécu. » Et tout d'un coup, les voir vivre quelque chose presque d'insoutenable à m'écouter, parce que je faisais simplement écho à leur propre expérience d'enfant. Ils étaient devenus des enseignants pour réparer. En même temps, étaient les parfois les mieux placés pour pouvoir mesurer ça. C'est clair, vous me suivez? La honte. La honte que peuvent vivre les enfants qui ont été ainsi humiliés a une conséquence à trois niveaux. Je voudrais vous montrer les conséquences visibles, lisibles de la honte. Vous avez un petit peu froid? Ça va? On ne peut pas bouger encore. Hein. Trois conséquences, mais qu'on peut voir de la honte. Première conséquence, chez un enfant qui a été humilié, c'est une conséquence physique, corporelle, somatique. Un enfant humilié, une fois qu'il l'a été, va mettre une énergie incroyable à se rendre transparent, à se faire ignorer, à ne pas être vu. Par exemple, ça commence des fois tout petit. Je suis en école primaire, rappelez-vous, en école enfantine, et puis c'est la récréation, mais ça arrive tellement souvent, ça. Je vais en récré, c'est génial, la récré, parce qu'on joue, on joue. Et puis après, on revient en classe. Allez, c'est l'heure, on reprend. J'ai envie de faire pipi, hein, oui. J'étais tellement pris par mon jeu que je ne vais quand même pas penser à paumer du temps en uriner. Quelle perte de temps! Je ne vais pas le faire, ok? Alors, je reviens, et puis après 5 minutes, j'ose dire, je voudrais aller faire pipi. Okay? Alors, tout le monde ne fait pas ça, très heureusement. Mais parfois, les enseignants disent, bah, écoute, non, il fallait y penser à la récréation. Oui. Oui, quand on est adulte, oui. Quand on est petit, non. Ça ne marche pas comme ça. Okay. Alors, Et c'est arrivé à un sacré paquet d'enfants que je connais. Alors bon, ben, je me retiens. Bon, ben, je me retiens. Bon, ben, je me retiens. Bon, ben, il y a une petite tache qui tout doucement apparaît. C'est tout simple, voyez. On en rit, voyez, c'est vraiment rien. Parce qu'on va rire de cette petite tache qui est en train comme ça de gagner un petit peu de surface. Mais pour le môme que je suis, ce n'est pas une tache d'urine, c'est un enfer. Oh, madame, Tom, il a pissé par terre. Oh, putain, ta gueule. Oui. Hey, ça fait tache comme ça. Et vous avez le môme, mais qui devient mal, mais mal, tellement mal, vous comprenez? Tellement mal. Là, vous allez voir tout de suite les signaux physiques. Okay. Il peut pleurer, il peut trembler, il peut devenir rouge de confusion, il peut devenir pâle, il ne sait plus du tout où se mettre, au point même que parfois le lendemain, il ne veut plus venir à l'école. Si c'est répété une fois, deux fois, trois fois, pour déclencher une phobie scolaire de temps en temps, sur un enfant fragile, ça marche. Ça, les phobies scolaires vont vraiment emprunter souvent les voies de l'humiliation, bien évidemment. Pourtant, c'est rien. Ça, c'est un point pour les enseignants auprès des tout-petits. C'est rien. Il y a même une situation avec les petits-enfants où c'est tellement drôle, vous comprenez? Un mot d'enfant. Ma petite puce disait quand elle avait 3 ans, maintenant elle a bien grandi. Elle disait, je lui disais, viens, on va marcher. Et puis elle me disait, non, moi je n'aime pas marcher. Ben, je disais, mais pourtant tu disais que tu aimes bien marcher. Oui, j'aime bien marcher quand on me porte. Mais moi, je riais de ça, vous voyez. Puis il disait, pourquoi tu te moques de moi? Voilà. Ce genre de situation-là, où c'est frais, où c'est naturel, c'est pas du jus de fruits, mais c'est tellement quelque chose de spontané, vous voyez. Mais on rit. Mais devant nos rires, parfois un enfant, on n'imagine pas comme il peut être blessé. C'est tout simple par ça. Blessé. Et parfois, je dis, non, ok, excuse-moi, on arrête de rire. On arrête de rire de ça. Parce que pour nous, c'est rien, mais pour un enfant, c'est pas rien. Quand je parle de ça, je vous montre aussi le nombre de transactions d'humiliation qui sont involontaires, indirectes, qu'on ne veut pas faire, mais pour autant qu'on agit. Et chez les tout petits, c'est très flagrant. C'est aussi flagrant chez les plus grands. Et autre exemple, par exemple, vous avez un gamin qui a 11-12 ans, il a eu un petit souci, des soucis un peu en français, et puis en week-end il bosse. Lundi, il y a une dictée, ok? Eh bien, pour une fois, il ne fait pas 15 fautes, mais il en fait 5. C'est tout con. Et le prof lui rend sa copie. Pour le gamin, il a 5 fautes. Ce qu'il attend, ce n'est pas la note. Il s'en moque, c'est que l'enseignant dit, putain, écoute, super, chouette ce que tu as fait. Mais l'enseignant, c'est normal, il remet le courrier, je ne vous le reproche pas. Il remet le courrier, il remet la note, il remet le papier. Mais, et le gamin est là, mais il se sent, c'est presque humiliant de ne pas avoir ce retour-là. D'autres enfants, et j'ai vu ça beaucoup chez mon dernier enfant. Mon dernier enfant a un problème, c'est d'avoir eu devant lui, ça je prends souvent comme exemple, mes trois premiers enfants sont bons, sont brillants. Et lui, il est venu au monde avec l'envie. Il est venu au monde 7 ans après, il y avait un petit peu de retard à l'allumage. Et puis, il vient, et son envie, c'est d'être aussi vite, aussi fort, aussi grand que les autres. Mais il n'y arrive pas. Il a horreur d'apprendre, lui, il veut savoir. Il ne veut pas apprendre pour savoir. Il veut pas, il prend pas non plus le risque de se planter. Vous comprenez? Comme ça, pour pas me planter, je risque pas. Et évidemment, il est dans la mouise avec ça. C'est une évidence, ok? Pourquoi je dis ça? Oui, eh bien, lui parfois, il faisait vraiment de vrais efforts, mais arrivé parfois en cours, devant l'examen ou l'épreuve qui lui était faite, ses moyens, il les perdait. Et l'enseignant disait, t'as pas travaillé. Il disait, mais si, il travaillait tout le week-end. Arrête de me dire des conneries, je saurai. Regarde ce que tu as fait. C'est tout simple. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas l'éviter. Mais pour un gamin, c'est à nouveau humiliant. d'entendre quelque chose qui est faux par rapport à ce que lui-même a réalisé comme effort. Alors, je disais donc, premier niveau de conséquence, le niveau somatique, corporel. La honte est portée d'abord au niveau corporel. Les gamins baissent les yeux, ne peuvent pas vous regarder, ne peuvent pas vous faire face, tentent de vous éviter. Si vous leur serrez la main, ils vous donnent des petits bouts comme ça de moignons, okay, mais ils ne sont pas dans leurs mains. Invisibles, illisibles, inodores, incolores. Et vous dites, tiens, dans cette classe, ils sont 12. Tiens, un groupe, ils sont 12. Et vous faites, il y a qui? Vous faites le tour. Jérôme, Marcel, Gaspard, hein, vous arrivez à 11. Ah, il m'en manque un. C'est pas vrai? Eh oui. Eh oui. Parce qu'il n'est pas imprimé dans vous. Ça, c'est typique, ces enfants-là. Typique. On ne les voit pas, entend pas, on ne les sent pas, on les oublie, ils ne vous impriment pas. Avantage, ils ne posent aucun problème. Inconvénient, ils ne posent aucun problème. Si le niveau corporel est touché, le niveau intellectuel est touché aussi. Ça, c'est vraiment un point important. La capacité, la compétence à apprendre est affectée par l'humiliation. Je vais renoncer à penser. Renoncer à courir le risque de penser. Par exemple, à nouveau, inévitable, en classe d'anglais. Okay. Ça, c'est alors là, langue étrangère, c'est terrible pour ça. Si vous êtes un gamin qui est cool, dynamique, puis que vous avez la consistance, vous dites, on est quel jour? Oh, today is Tuesday. Oh, super. Un gamin pour moi consistant, Jean-Luc, un jour, today is Tuesday. Tuesday. Voilà. C'est pas la prof qui se moque, ok? C'est les copains, copines. Mais après, vous mettez une énergie incroyable, ok? Non pas à apprendre l'anglais, mais à apprendre à vous dissimuler en cours d'anglais. Faites le mort pour ne pas être vu. Alors, je vais interroger qui? Vous vous écartez. Parce qu'à ce moment-là, courir le risque de prendre la parole, c'est courir le risque d'être humilié. Et vous limitez la prise de risque. Mais vous limitez aussi le fait simplement de pouvoir penser par vous-même, d'oser penser. D'oser apprendre, vous commencez à vous incapaciter. De toute façon, quitte à être con, ben je serai con. Et vous avez des êtres humains, mais par millions, qui attendent d'avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, et d'être sortis du cursus scolaire habituel pour reprendre des études. On dirait que là, enfin, ils vont à leur école. Parce que là, au moins, il y a moins de risques pour eux. C'était mon parcours. J'ai repris les écoles à 18, 19 ans. Et passé en... Au début, j'ai fait un CAP, CAP d'employé de bureau. Voilà. Moi, à 16 ans, j'ai fini ma scolarité. À 16 ans, j'étais dans un bureau comme employé de bureau. Ce n'est vraiment pas un métier qui pose souci. Juste, ce n'était pas mon métier. Et l'humiliation, ce que j'ai vécu, s'appuyait entre autres sur un défaut d'élocution que j'avais. Alors, mon bégaiement de collégien a été l'objet de moult moqueries. C'est facile de faire ça. Donc, la pensée est incapacité profondément. Troisième niveau où l'enfant est affecté, le corps, la pensée, l'âme. Quand je dis l'âme, je veux dire ce qu'il y a de plus sacré pour un enfant, la dignité. Il peut commencer à avoir une image de lui-même qui est une image réduite de lui-même. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Ma nana qui pense qu'elle est bête à 65 ans, mon ami qui pense qu'elle est médiocre après avoir été pendant 10 ans major de sa promotion en médecine. Okay. Ces personnes-là ont profondément chevillé en elles quelque chose qui est, je sais bien que malgré tout ce que je vous montre, je ne suis pas en vérité qui je suis. Ça les conduit parfois alors à devoir prouver qu'ils ont quand même le droit d'être là. Vous avez des enseignants qui sont sur ce modèle-là. Par exemple, si je suis issu de parents ouvriers, de parents agriculteurs. Okay? Mes grands-parents sont tous agriculteurs, mes parents sont ouvriers. M'installer comme profession libérale et être un consultant à un niveau national et puis maintenant européen, oh, c'est véritablement courir le risque d'être déloyal. Et puis aussi de me dire, mais mon grand, pour qui tu te prends? Il m'a fallu au moins 15 ans, de 30 ans à 45 ans, pour avoir le droit de parler devant un public sans me dire, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, petit con, d'être là? Tu te prends pour le roi du monde? Comme si on allait véritablement se rendre compte, voir que derrière le conférencier, en fait, il se la pète, il se la joue, hein, mais il n'y a qu'un petit fils d'ouvrier qui est une grenouille qui se prend pour un bœuf. Puis basta. C'est pareil pour un enseignant. Quand parfois je viens d'un milieu ouvrier ou un milieu agricole, parfois franchir le cap social et devenir enseignant, les parents diront, mais écoute, c'est bien, il a bien réussi. Elle a bien réussi. Oui, tant mieux. Okay? Mais ce n'est pas si simple que ça. Parfois, pas toujours. Parfois, j'en suis fier. Mais parfois, il y a encore en moi la trace que est-ce qu'on va se rendre compte d'où je viens? Est-ce qu'on va se rendre compte que, somme toute, je suis comme un imposteur ou une imposteuse? Ce qui va me conduire, par exemple, à en vouloir en faire plus que les autres. Beaucoup plus. Préparer vachement mes cours. Hyper ficelé. J'y passe mes soirées, mes week-ends. Comme ça, je ne suis pas pris en faute. Voilà. Irréprochable. Seul, isolé, dans mon coin, d'accord, mais irréprochable. Ce qui peut m'amener parfois à prendre une position devant un groupe classe ou devant mes collègues, qu'on appelle des fois d'arrogance vertueuse. Je sais de quoi je parle. On va dire, attends, il se la pète, okay? Ou elle se la pète, il est hautain, il est distant, elle est froide, okay? Elle est un peu dure. On ne se rend pas compte que derrière cette position-là d'arrogance vertueuse, okay, se cache en réalité quelqu'un qui tente encore et encore de se dire qu'il a quand même bien le droit d'être là où il est. Tout ça nous parle d'humiliation, tout ça nous parle de la honte. Ce n'est pas propre aux enfants. Maintenant, si je reviens aux enfants, encore 5 minutes, puis après je me calme. Mais je ne m'arrêterai pas, en fait. Vraiment, je ne m'arrêterai pas. Il y a tellement à dire sur ce point-là. Si je reviens aux enfants, on a vu donc les conséquences. Okay. Alors, il faudrait que je parle des origines, mais peut-être qu'on parlerait des origines de la honte et de l'humiliation dans les questions. Si je reviens aux enfants, vous pouvez, mais ne le faites pas, mais vous pouvez tenir un groupe classe véritablement avec le levier de l'humiliation. Et vous pouvez faire ça avec les classes enfantines dès 2 ans. Certains enseignants ne s'en privent pas, qui utilisent comme assise sur un groupe classe l'humiliation. Il suffit pour ça, et je peux le faire même avec vous, suffit pour ça, devant un groupe classe, de cerner, d'utiliser un ou deux enfants, okay, et les transformer en bouc émissaire. Par exemple, on va prendre pour cela, pour se faire un support. Celui-ci, il est un petit peu rond, hein, un bouboule. Non, 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 riez pas, riez pas, riez pas, riez pas. Et hop là. Et tout doucement, c'est moi qui introduis le mot bouboule. Et c'est moi qui dis non, non, riez pas, ne riez pas, ne riez pas. Et qui vous fait croire que non, non, je ne veux pas que vous vous moquiez de lui. Mais c'est moi qui ai introduit ça. Et peu à peu, je suis en train de me moquer subtilement, en m'en défendant par ailleurs, okay, d'un aspect physique de l'élève, aspect qui ne peut pas changer, qui ne peut pas corriger. Les poils de carotte, pour les enfants roux, serpent à lunettes. Les petites boules de neige pour les enfants black, tout ce qui va comme ça, sont bienvenus pour ça. Ça marche nickel chrome. En faisant ça, vous commencez peu à peu à stigmatiser un des élèves. c'est fait, vous le faites subtilement. Il faut un dosage vraiment tranquille. N'en mettez pas trop, ça se voit. Pas trop peu, sinon ça n'apparaît pas. Okay? Donc vraiment, juste un bon dosage. Vous commencez à isoler comme ça un élève. Vous allez voir en création, peu à peu, il se retrouve seul. On joue moins avec lui. Et pour les autres élèves, tant que ce n'est pas eux qui sont pris comme bouc émissaire, ça le fait. Et au contraire, vous les mettez en alliance avec vous. Ils vont pas faire les marioles, ils vont pas faire les imbéciles parce qu'ils ont trop la trouille, qu'à leur tour, ils ne deviennent la cible. Vous pouvez prendre n'importe quelle sanction, okay, jusqu'au coup de martinet, jusqu'au coup de bois, jusqu'au claque, jusqu'au coup de pied au cul. Aucune de ces sanctions-là n'est plus forte que l'humiliation. Aucune. Rien. Rien n'a plus d'impact sur un enfant que l'humiliation. En humiliant un enfant, je vous menace tous de l'être à votre tour. Je vous mets dans ma poche. Bien sûr, il y a un prix à payer, un môme. Mais ça marche. J'ai une classe tenue ric-rac. Et quand la classe, après, va prendre mon relais, s'allier avec moi de temps en temps et se moquer de l'enfant, je dirais, arrêtez, eh oh, s'il vous plaît, arrêtez, hypocritement. Vous n'y verrez rien, ils n'y verront rien. Ce levier est le plus manipulateur qui soit, il est le plus malsain qui soit, mais plus performant tu meurs. C'est extrêmement performant. Plus tard, en entreprise normale, en entreprise scolaire, on appelle ça le mobbing, qui est une forme de harcèlement. Mais ça s'appuie ni plus ni moins que sur une transaction d'humiliation. Et la meilleure façon d'humilier quelqu'un, c'est de lui être indifférent, aussi avec un enfant. Et surtout, quand on s'appuie sur un élément corporel, physique, relationnel, qui ne peut pas changer. On ne peut pas de black devenir blanc. Même Jackson qui s'est essayé n'y est pas arrivé. On ne peut pas comme ça, de roux, sauf à se teindre les cheveux, devenir brun. On ne peut pas de myope devenir, ne plus être myope. Ça ne le fait pas, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas de rond devenir filiforme. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas changer ça. Une des résultantes de ces trois conséquences, somatiques, intellectuelles et presque spirituelles, c'est que ça met l'enfant dans une position d'impuissance. Il est impuissant. Cette position d'impuissance conduit l'enfant, et c'est vraiment un point important à noter, à une forme de passivité. Il n'agit plus, il devient passif. Et ce n'est pas en engueulant un enfant qui est passif, qu'on va l'aider. Au contraire, on augmente encore son sentiment d'impuissance. Mais la passivité qu'il met en œuvre est la traduction en externe du sentiment d'impuissance qu'il ressent en interne, qui est la conséquence de l'humiliation. Voilà, ça fait une bonne heure que je parle. Mon envie, vraiment, parce que je dis bien, il y a tellement à dire, c'est de me centrer davantage sur ce que vous rencontrez, vous, comme expérience auprès des enfants, auprès des groupes classes, pour être au plus près de vos réalités à vous et d'aller là où vous avez des difficultés ou des questions à poser. Donc voilà, c'est à vous, pendant peut-être 3 quarts d'heure, 50 minutes, pour qu'on puisse échanger ensemble. Merci au passage de votre attention bienveillante pour le moment. Merci.